avec l'aide de la parole de Dieu, de répondre à cette question. Et pour y répondre, eh bien, je vous invite à faire quelques lectures dans la parole de Dieu, dans la Bible. La première se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 8 et au verset 22. Luc, chapitre 8, verset 22. Voilà ce qui est écrit. C'est un récit d'un fait, de la manifestation de la puissance du Seigneur Jésus. Il est écrit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau à qui ils obéissent? Amen. Voilà. Vous savez, il y a parfois des gens qui m'ont dit, oh, la Bible... C'est bien compliqué, c'est pour ça que je m'abstiens de la lire. Mais il me semble que quand nous sommes en présence d'un récit tel que celui-ci, il n'y a rien de compliqué du tout, qu'en pensez-vous, hein ? Il s'agit là du Seigneur Jésus qui, comme nous dit le texte, très simplement, eh bien, s'en va dans une barque sur le lac de Tibériade et pendant la traversée, Jésus s'endort, peut-être bercé par les flots. Et puis, au beau milieu de la traversée, l'Écriture nous dit qu'un vent, tout à coup, s'est mis à souffler, un tourbillon a fondu sur le lac et la barque se remplissait d'eau au point qu'elle s'enfonçait, nous dit notre texte. Vous savez, quand la barque est sur la mer, c'est une chose, mais quand la mer est dans la barque, c'est autre chose. Et c'est là ce qui se produisait. Alors, tout affolé, tout inquiété, tout paniqué, et pourtant certains de ces disciples de Jésus étaient des marins de leur métier, n'est-ce pas, des marins professionnels. Ils réveillent Jésus en lui disant, maître, maître, nous périssons. Et vous avez remarqué avec quelle autorité, quelle puissance, quelle souveraineté sur les éléments, Jésus intervient en commandant au flot, à la mer, au vent, de se calmer, et tout à coup, le calme revient. Et Jésus se tourne vers ses apôtres en leur disant, mais où est votre foi? Pourquoi est-ce que vous vous paniquez ainsi? Ne savez-vous pas que, en quelque sorte, je suis le maître de toutes les circonstances, et je savais bien que si je vous indiquais qu'il fallait monter dans la barque, eh bien, j'assurais aussi l'arrivée à bon port. Et ces hommes, pleins d'étonnement, de stupeur, de stupéfaction devant la manifestation de la puissance, de l'autorité de Jésus, se sont concertés, regardés avec étonnement les uns les autres, en même temps que plein de frayeur, en disant, mais quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à la mer et à qui ils obéissent? Voulez-vous retenir cette parole, cette question? Quel est donc celui-ci? Quel est donc ce Jésus qui a autorité même sur les éléments déchaînés? Voilà pour la première lecture, et nous allons en faire une autre, toujours dans l'évangile de Luc. On va tourner une page en arrière, hein, et nous allons aller au chapitre 7 et au verset 36. Nous trouvons là un autre récit, dans d'autres circonstances, traitant de ce même Seigneur Jésus. Il est dit ceci, un pharisien, c'est-à-dire un homme profondément religieux, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce la femme qu'il touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. » Voilà, hein? Jésus participe donc à un repas. Et vous savez, les gens au Moyen-Orient, à cette époque-là, ne mangent pas comme nous. Nous mangeons installés à table, les pieds sous la table. Mais eux, ils mangeaient allongés sur un divan, vous voyez, le coude gauche qui servait d'appui, et on se servait dans le plat qui était central avec la main droite. De telle sorte qu'il est dit que cette femme, elle se tenait au pied de Jésus, lequel Jésus était allongé sur ce fameux divan. Et il y avait là un étrange manège, hein, cette femme est arrivée, voilà, alors qu'elle n'était pas invitée, elle a porté un vase plein de parfum, elle pleurait sur les pieds de Jésus, les a mouillés de ses larmes, les a effilés avec ses longs cheveux, a embrassé les pieds du Seigneur et a versé du parfum dessus. Et voilà que cet homme éminemment religieux qui avait invité le Seigneur a fait des réflexions en lui-même. Hein? Vous savez, des fois on ne parle pas, mais on pense. Et il pensait. Il pensait en voyant ce manège, il se disait vraiment si ce Jésus était celui que l'on dit qu'il est. Si c'était un authentique prophète, voyons, voyons, il connaîtrait de quelle espèce, on sent avec quel mépris il dit ça, de quelle espèce est la femme qui le touche, qui ose le toucher, il ne tolérerait pas ça. Il saurait que c'était une femme pécheresse. Et Jésus donc lui raconte cette petite histoire, et puis lui signale que lui, Simon, puisque tel était son nom, le pharisien, le religieux, il avait manqué au formule de courtoisie les plus élémentaires de l'époque. Vous voyez, quand on était bien reçu chez quelqu'un, d'abord on vous donnait un bassin pour vous laver les pieds. Parce que les chemins poussiéreux du pays d'Israël faisaient que, comme on marchait en sandales, eh bien les pieds étaient souvent sales. Ensuite, quand on souhaitait la bienvenue à quelqu'un, on versait quelques gouttes d'huile parfumée sur sa tête et on l'accueillait en l'embrassant. Et cet homme avait négliger les formules ordinaires de la politesse orientale, alors que cette femme, spontanément, eh bien, elle les avait pratiquées, les avait manifestées. Et Jésus dira qu'en fait, l'amour, car c'est de cela dont il s'agit, l'amour que cette femme a manifesté par rapport à Jésus, démontrait qu'elle avait reçu par la foi le pardon de ses péchés. Parce qu'il faut pas comprendre le texte. Il ne faut pas croire que parce qu'elle a aimé, elle a été pardonnée. C'est l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'elle a reçu le pardon qu'elle a manifesté en retour l'amour pour Jésus. Vous voyez ? Ce ne sont pas nos bons sentiments, ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas notre charité qui peuvent nous valoir de recevoir, d'accueillir le pardon de Dieu. Non. Le pardon se reçoit par la foi. Et quand on a reçu par la foi le pardon de nos péchés, alors, pour le pardon qu'il nous a accordé, on manifeste, à l'égard du Seigneur, tout. tout l'amour que nous avons dans notre cœur. Ainsi a souffert cette femme. Mais Jésus a confirmé la réalité du pardon qu'elle avait reçu par la foi en lui disant, mais ne te fais pas de soucis, ma fille, tes péchés sont pardonnés, va en paix, ta foi t'a sauvée. Et les auditeurs présents, eh bien, se sont étonnés de cette parole, hein, de cette affirmation du Seigneur, et ont pu dire à son égard, à l'égard de Jésus, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Qui est celui-ci? Donc, d'une part, nous avons cette question que nous avons entrevue tout à l'heure. Qui est celui-ci qui commande aux éléments déchaînés? Et les éléments déchaînés s'apaisent. Et qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Qui est ce Jésus qui fait ces choses extraordinaires? Qui est ce Jésus qui a suffisamment d'autorité, de pouvoir pour commander aux éléments naturels? Et qui est ce Jésus qui a suffisamment d'autorité dans le domaine spirituel, cette fois, pour accorder le pardon des péchés à ceux qui croient en lui? Eh bien, la réponse à cette question, qui est Jésus? C'est un homme de la Bible qui nous la donne. Cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Et si vous voulez, à cette question, qui est ce Jésus? Qui est celui-ci? Nous allons laisser l'apôtre Pierre nous apporter la bonne réponse. Et pour ce faire, je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Voilà. Je vous donne la possibilité cet après-midi de tourner les pages de votre Bible. Ça vous empêche au moins de vous endormir, hein? Matthieu, chapitre 16, verset 13. Il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Vous voyez, lui-même prend la question en compte. « Qui dit-on que je suis ? Qui suis-je pour les gens que vous rencontrez ? Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La voilà la bonne réponse. Qui est celui-ci ? Qui est ce Jésus qui commande aux éléments déchaînés ? Qui est ce Jésus qui pardonne même les péchés ? Eh bien, la voilà la réponse. Celui-ci, c'est Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire ta propre intelligence, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Voilà, nous voyons Jésus en quelque sorte se livrer là un petit sondage d'opinion. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Alors on lui apporte diverses réponses. Eh bien, certains disent que tu es Jean-Baptiste qui serait ressuscité des morts. D'autres disent que tu es un des prophètes du passé qui aurait ressurgi à nouveau, etc., etc. Et puis la question se fait plus précise, mais qui dites-vous que je suis? Vous. Et Pierre a cette réponse magistrale, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la bonne réponse, mes amis. Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas simplement, comment dire cela, un faiseur de miracles. Il est bien plus que cela. Il n'est pas qu'un prophète, même s'il est vrai qu'il est prophète. Mais il est bien plus que cela. Jésus, c'est le Christ, tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Christ, que nous avons l'habitude d'employer aujourd'hui pour désigner le Seigneur Jésus, a une signification bien précise. Le Christ, ou le Messie, ce qui est la même chose, eh bien, c'est celui que Dieu a envoyé, et selon la terminologie biblique, celui que Dieu a rempli de son esprit. Celui que Dieu a rempli de son esprit pour qu'il vienne apporter le secours divin à ceux qui croient. Alléluia. Car Jésus n'est pas venu sur la terre avec le but de créer de toutes pièces une nouvelle religion, une nouvelle forme de pensée, une nouvelle parole philosophique. Non, il est venu pour apporter de la part de Dieu son Père le secours dont nous avons besoin, secours qui ne sera accordé effectivement si nous mettons notre foi en lui. Il est le Christ, celui que Dieu a désigné, celui que Dieu a envoyé. Lui et personne d'autre pour nous apporter la grâce divine. Il est aussi le Fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Dieu lui-même. Et en fait, Dieu qui s'est fait homme. C'est lui, voyez-vous, Jésus, Fils de Dieu, le Christ, qui a été conçu miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit. C'est lui qui a vécu une vie parfaite, contrairement à nous tous qui sommes des pécheurs. C'est lui dont les évangiles nous disent qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant qui était sous l'oppression du diable. C'est lui qui, en mourant sur la croix, a aussi expié nos péchés. C'est lui qui est ressuscité le troisième jour. C'est lui qui fut enlevé auprès de Dieu son Père. C'est lui qui reviendra un jour, comme dit le Credo, juger les vivants et les morts. Eh bien, vous avez besoin, mes amis, de croire cela, si vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de croire qu'il est, comme je viens de le dire, plus qu'un grand homme, et bien plus même qu'un prophète, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, qui fut rédigé par l'un de ses plus proches disciples, en terminant son évangile, l'auteur dira ceci: ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Que vous croyiez quoi? Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie en son nom. Et oui, pour avoir la vie, il s'agit là de la vie éternelle, de la vie qui se prolongera même au-delà du tombeau, même au-delà de la mort. La vie dans le royaume de Dieu, la vie dans le paradis, la vie pour l'éternité. Pour recevoir ce bienfait de la part de Dieu, il faut croire que Jésus est ce que l'apôtre Pierre nous dit par une révélation du Saint-Esprit, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le seul par lequel nous puissions être bénis de Dieu et accueilli par lui. Voilà. Jésus revendique l'exclusivité. Il y a des gens qui s'étonnent de cela, vous savez. Aujourd'hui, il est de bon ton d'affirmer qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais que la vérité, elle est un petit peu ici, elle est un petit peu ailleurs, n'est-ce pas ? Et qu'avec chaque partie de la vérité que nous puiserions dans telle ou telle religion, on fera une espèce d'amalgame, une espèce de mélange qui nous permettra d'accéder quelque peu à quelque chose qui ressemblerait à la vérité. Non, mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. La vérité, ça n'est pas une cuisine, excusez-moi, ce n'est pas une tambouille que nous nous préparons nous-mêmes. La vérité, elle nous est communiquée dans sa totalité par la grâce de Dieu. Et Jésus dira: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Notre texte nous dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom, entendez-vous, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom unique, merveilleux, qui nous accorde le salut, la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Comment se fait-il que les hommes, même les hommes religieux, en soit arrivé au point où nous en sommes aujourd'hui dans certaines traditions religieuses, où l'on a imaginé qu'entre Dieu et les hommes, il y aurait une multitude d'intermédiaires, de saints et de saintes, que nous pourrions invoquer, chacun ayant sa spécialité, celui-ci pour les objets trouvés, cet autre pour une autre affaire. Non, mes amis, ça n'est pas comme ça que ça marche. Non, 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 c'est Jésus qui répond à toutes les situations. C'est Jésus qui répond à toutes les détresses dans lesquelles nous pouvons nous trouver confrontés. Voyez, comme dans notre texte, on pourrait dire qu'il est capable de calmer toutes les tempêtes. Et Dieu sait que dans la vie, il y en a des tempêtes qu'on peut traverser. N'est-il pas vrai? Tempête dans notre santé d'abord. Voilà, vous allez faire un banal examen, hein, chez le médecin. Et puis boum, voilà qu'il vous est réservé qu'ici, quelque part, il y a une cellule qui malencontreusement l'a muté dans le mauvais sens, qu'il y a quelque chose de tournois, de sournois, de malin. Et alors on panique, c'est la tempête, ça, hein. Ça vous vient dessus, tout à coup. L'instant d'avant, tout allait bien, l'instant d'après, c'est la catastrophe. C'est pas vrai? Ça peut être dans le domaine de la santé physique, ça peut être dans le foyer. Ah, pourtant, ils avaient l'air si mignons tous les deux sur la photo de mariage, hein. Mais quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, le conte de fées se transforme en cauchemar. Voilà, c'est l'affrontement, c'est la jalousie, c'est les épithètes qui volent pas très haut, hein. Voilà, les paroles grossières, méchantes, agressives, parfois les coups, l'infidélité. C'est la tempête dans le foyer. Si j'avais su, jamais je ne me serais marié avec un tel homme. Jamais je ne me serais marié avec une telle femme. Comment sortir de ce drame? Oh, revenir à la maison tous les soirs, ça n'est plus un plaisir. C'est un fardeau, c'est un souci, c'est une tragédie que je vis. Il y a des gens qui connaissent ce genre de tempête. Tempête dans le domaine moral. Hein? Eh oui, là, au cours des vacances que nous venons de passer, avec mon épouse, dans notre famille, nous avons été confrontés avec la situation d'une jeune femme qui est dans le désarroi. Et le médecin a dit à l'hôpital, urgence psychiatrique. Et voilà, vous voyez, la tempête. Pourtant, elle est belle comme le jour, elle est apparemment resplendissante de santé. Mais dans son être moral, dans sa tête, dans son cœur, à cause de tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, rien ne va plus, c'est la tempête. Et dans tant et tant d'autres domaines. Mes amis, si vous en êtes là, Jésus peut calmer votre tempête. Vous savez ça? Jésus peut calmer votre tempête. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à la mer? Et qu'ils obéissent. Gloire à Dieu. Et plusieurs parmi nous pourraient se lever en disant, je confirme, c'est vrai. La tempête a soufflé dans ma vie, dans la santé, dans le foyer, dans mes affaires, dans mon moral ou dans d'autres domaines. Un jour, j'ai eu recours à Dieu, n'en pouvant plus. Dans le nom de Jésus, je me suis adressé au Tout-Puissant et il a ramené le calme. Alléluia. Il a ramené le calme. Et désormais, eh bien, sa grâce est sur ma vie. Et oui, et puis, qui est celui-ci? Ben, il pardonne les péchés. Pas seulement les péchés de la femme qui est venue pleurer, là, à ses pieds, il y a 2000 ans, mais les vôtres de péchés. Parce que chacun a les siens. N'est-il pas vrai? Laissez-moi vous le dire un peu crûment. On sait, chacun d'entre nous, ce qui bout dans notre marmite. Je sais, moi, ce que j'ai fait dans mon passé. Je sais ce que j'ai été. Je sais les comportements que j'ai eus, les paroles que j'ai prononcées et les sentiments qu'il y a eu dans mon cœur. Je sais. Mais je sais aussi que la grâce de Dieu est passée par là. Et que le Seigneur Jésus a pardonné mes péchés passés, comme il le fit autrefois pour la femme pécheresse. Eh bien, il veut le faire aussi pour vous. Qui est celui-ci? C'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui, du fait de son sacrifice accompli en notre faveur sur la croix du calvaire, a reçu de la part de Dieu son Père le pouvoir de pardonner les péchés. Tous les péchés, oui, tous les péchés, même les plus horribles, même les plus affreux, même les plus abjects, il fait grâce parce qu'il a donné sa vie sur la croix et il communique en retour la vie éternelle. Béni soit son nom. Alors, on arrive à notre conclusion. Vous voyez, je ne serai pas trop long aujourd'hui. C'est vrai, je rentre de vacances, peut-être c'est pour ça. Aujourd'hui, voulez-vous croire qu'il est bien le Christ, le Fils de Dieu? Important, ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient un certain respect pour Jésus. Vous avez remarqué ça? Finalement, il y a peu de gens qui se moquent de Jésus. Il y a peu de gens qui osent tourner en dérision. Il y en a, mais relativement peu, la personne de Jésus. Parce que, il n'y a rien à dire, quoi. Il était parfait, hein. Mais quand on leur dit, croyez-vous qu'il est le Christ, alors là, c'est une autre affaire. Croyez-vous qu'il soit le Fils de Dieu? Oh, ne me parlez pas de ça, un grand homme, oui. À la limite, un prophète. Peut-être même sûrement un philosophe, un penseur, un homme hors du temps. Mais le Christ, non. Le Fils de Dieu, sûrement pas. Eh bien si, mes amis. Quel est donc celui-ci, ce Jésus? Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vais vous dire quelque chose. Il est le Sauveur dont vous avez besoin. Il est le sauveur dont vous avez besoin. Vous pouvez frapper toutes les portes. Vous pouvez courir le monde. Vous pouvez essayer de vous procurer tous les plaisirs que cette terre peut vous offrir. Vous pouvez vous donner toutes les jouissances que vous pouvez rencontrer ici-bas. Vous pouvez même acquérir peut-être toutes les richesses. Mais personne ne pourra vous donner ce que lui est en mesure de vous donner. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, oui, celui dont vous avez besoin. Cet après-midi, je voudrais vous dire que la foi, ce n'est pas simplement un sentiment, là, comme ça, un peu fugace, hein, une opinion religieuse ou philosophique. Non, la foi, eh bien, c'est un engagement. Voulez-vous l'accepter comme le Seigneur et le Maître de votre existence? Voulez-vous recevoir la vie, sa vie, et voir ainsi toute chose devenir nouvelle pour vous? C'est possible. C'est possible à partir de quand? De maintenant, mes amis. Parce que la grâce de Dieu, ça n'est pas une longue initiation. Ça n'est pas par des séances multipliées et compliquées que l'on parviendrait d'étape en étape, n'est-ce pas, d'initiation successive en initiation successive à atteindre un certain niveau. Non, ça se reçoit instantanément, la grâce de Dieu. Au moment où on dit, Jésus, je crois. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, j'accepte ton autorité sur mon existence. Alors il vient, mais je vous dis, c'est vrai, il vient et désormais plus rien n'est pareil. Voulez-vous vivre cela? Voulez-vous lui dire, Seigneur, je te reçois? C'est important ça, de verbaliser. Vous savez, il y a des gens qui disent, ouais, mais je prie dans mon cœur. C'est très bien de prier dans votre cœur. Mais quand vous allez au boulanger et que vous achetez votre baguette de pain quotidien, vous ne parlez pas avec votre cœur, vous parlez avec votre bouche. Vous lui dire, monsieur le boulanger ou madame la boulangère, je voudrais une baguette de pain. C'est comme ça que vous faites. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil, mes amis. Il y a des moments où il ne faut pas se contenter de dire, mais c'est intérieur, vous savez, moi j'intériorise beaucoup les choses. Non, il faut verbaliser. On va prier. Et vous allez prier. Non pas seulement écouter la prière du pasteur, mais vous allez prier en lui disant, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Je te reçois dans mon cœur comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur dont j'ai besoin. Je te donne ma vie et j'accepte que ton autorité s'exerce sur mon existence désormais afin que tu me sauves, que tu me donnes la vie éternelle, que ton nom soit béni. Quel est donc celui-ci? Celui-ci, c'est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prions-le ensemble, voulez-vous? Moi à voix haute, vous à voix basse, mais prions-le ensemble. Notre Père,